La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons beauté artificielle et chirurgie. De plus en plus de personnes y ont recours. Moi, pas encore. J'ai 30 ans et les cheveux longs. Et je fais plein de jaloux chez certains copains qui économisent pour un billet aller-retour direction Istanbul. Courage à tous les chefs d'Île-de-France. Radio Campus Paris est là pour vous parler. Corriger le moindre défaut pour vous se rapprocher de certains modèles qu'on observe sur les réseaux sociaux, c'est devenu monnaie courante. Le nez, la moindre ride ou encore se faire casser les deux genoux pour gagner 5 cm, tout y passe. On ne veut plus vieillir. Tout le monde cherche la fontaine de jouvence et la trouve chez des chirurgiens parfois peu scrupuleux. Les vieux veulent rester jeunes tard, très tard. Des personnes à qui on ne peut pas donner d'âge, ça arrive de plus en plus. Le risque, c'est de tous se ressembler. Observons ce qui se passe aux États-Unis. L'entourage du vieux monsieur aux cheveux orange passe sous le bistouri. Pour appartenir au clan MAGA, c'est un rite de passage, un symbole d'appartenance. Cette envie d'avoir la peau si lisse qu'on pourrait faire un moindre qui glisse dessus, eh bien, elle rentre dans nos têtes via le scrolling, les réseaux. Les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans, nous voulons ressembler à ce que renvoie notre téléphone. Nous nous regardons tout le temps, à travers des selfies, des miroirs, des photos par milliers. Pourtant, le plus souvent, la perfection est dans l'imperfection. Les rites, par exemple, nous donnent des expressions, ce sont les traces de notre vie, un signe que l'on est en vie. Les enlever souvent, eh bien, ça fait qu'on ne sait plus très bien lire les émotions de ce visage si lisse. À trop vouloir tout lisser, on en perd parfois de vue l'important, nos émotions. Alors pour continuer à ressentir, à vibrer, et à moins se regarder, il y a la radio. Et oui, la radio, parce que vous n'entendez que ma voix et vous ne pouvez que m'imaginer. Peut-être suis-je Bradley Cooper ou alors peut-être suis-je Francis Lalanne. Imaginez-moi bien, faites-vous une image mentale. On est parti pour une heure sur la matinale 19h et promis, je ne cacherai pas mes émotions. Au sommaire de la matinale de 19h, une chronique signée Nancy. Juste avant, c'est le Zoom, nous partirons à la station Gare des Mines pour de la musique live avec la soirée D-Society au micro d'Eloane. Toujours musique, mais cette fois c'est Tana avec sa chronique sur les free parties. Le Flash Info sera mené par un spécialiste puisque Fabien est avec nous. Dans quelques instants, c'est la grande interview et Léonore reçoit la réalisatrice de Je ne serai jamais parfaite où il est question de beauté artificielle. La matinale de 19h, c'est jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Bienvenue dans la grande interview. Il est question de réseaux sociaux qui imposent un idéal de beauté artificielle et c'est rendu possible par la médecine et la chirurgie esthétique. En incursion dans ce monde où les nouvelles générations passent sous le bistouri de plus en plus tôt, observons les causes et effets de ce phénomène dû en partie au reflet que nous renvoie notre téléphone. Pour en parler, Éléonore reçoit Milakis, réalisatrice du documentaire Je ne serai jamais parfaite. Bonsoir.
Bonsoir Hugo, bonsoir Mila.
Bonsoir.
Vous êtes réalisatrice et votre premier long métrage documentaire Je ne serai jamais parfaite est sorti fin janvier dernier. Après les tournages de mode, de cinéaste, vous vous penchez sur l'uniformisation et la métamorphose des corps des jeunes femmes post-chirurgie esthétique. Et avant de rentrer plus dans le sujet, de quelle métamorphose on parle ?
Je pense qu'on parle de la métamorphose d'une société, déjà. Avant de parler de métamorphose de chair, de corps, on est vraiment dans la métamorphose d'une société, oui.
Ok, et du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur d'où est venue l'envie de couvrir ce sujet chez vous ?
Oui, alors moi j'ai eu moi-même une adolescence difficile avec mon corps, etc. J'ai beaucoup souffert de troubles du comportement alimentaire, j'ai été hospitalisée pendant très longtemps et j'ai mis du temps à guérir et quand j'avais 24-25 ans, j'ai rencontré un chirurgien esthétique à une soirée et on a beaucoup parlé de la beauté, tout ça, et il m'a dit « mais toi, faut que tu viennes voir une opération de chirurgie esthétique ». Et j'y suis allée et je suis allée au bloc opératoire et j'ai assisté à une trentaine d'opérations. J'ai filmé avec ma caméra et ça m'a réconciliée avec le corps parce que de constater ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, les couleurs, que la graisse a la même couleur que l'or, etc. Enfin, moi, ça m'a fait une psychothérapie en accéléré. Et puis surtout, je me suis dit que le corps, c'était pas un idéal. C'était une machine et c'était fait pour avancer, pour fonctionner. Et du coup, après cette étape-là, je me suis dit, mais ok, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces filles qui sont endormies? Comment on peut se détester à ce point? J'ai fait un parallèle avec moi. Et je me suis dit, voilà, enfin, la chirurgie esthétique, c'est tellement associé à quelque chose de superficiel. Et je me dis, mais pour s'allonger sur une table froide d'opération au nom d'un idéal, ça peut pas être superficiel, il y a beaucoup de profondeur. Et je voulais m'intéresser à ça, et puis je voulais le partager avec les autres.
Justement, dans la manière de filmer et de montrer ou pas, la chair, la graisse, le sang, de faire des zooms sur le plan de corps et de la peau de ces femmes, il y a plusieurs passages dans votre documentaire où l'image raconte ces métamorphoses. Et on voit des plans sous l'eau, sur la chair. Est-ce qu'on a besoin de voir le processus de chirurgie pour le comprendre et pour rentrer dans la tête de ces femmes? Est-ce qu'on peut couvrir un sujet qu'on n'a pas vécu ou sur lequel on n'avait pas d'a priori?
Oui, moi je pense que c'est très important de montrer parce que en fait... L'intérêt de la chirurgie esthétique a beaucoup grandi, notamment chez les jeunes récemment, autant que chez les vieux. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plus de les jeunes ont plus recours à la chirurgie esthétique que chez les vieux. C'est très lié aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est beaucoup de before after, donc c'est-à-dire voilà, une photo avant après, comme si en un coup de baguette magique, on s'était transformé comme ça, comme s'il n'y avait pas eu un énorme processus de douleur, de saignement, de chair, d'échymose, enfin voilà, tout ce qui est relatif à une opération, une anesthésie, enfin une période de réhabilitation, etc. Et puis des dangers aussi. Et du coup, je pense qu'on n'a pas du tout conscience du chantier que c'est pour le corps, de la boucherie que c'est. Et du coup, je pense que c'était très important de montrer des images d'opération parce qu'on n'a pas accès à ça en fait.
Et justement, comment on fait pour filmer ces corps sans les objectifier et en même temps en gardant la bonne distance? Vous parlez dans une interview de Pyjama Party de créer un cadre assez intimiste où au final, les histoires qu'elles racontent deviennent des confessions et on peut s'attacher, on peut avoir de l'empathie pour ces femmes qu'on cache souvent sous le nom de bimbo. Comment on garde la bonne distance pour les filmer?
Alors la bonne distance, je pense qu'elle s'est faites naturellement parce que moi je suis à peine plus âgée qu'elle. Enfin, au moment du tournage, j'avais 27 ans. Donc on était à peu près de la même génération. Donc déjà, ça a beaucoup aidé. Et puis surtout, moi, j'ai jamais jugé la chirurgie esthétique ou les personnes qui en font. Mon avis est assez neutre là-dessus et j'espère qu'on le ressent dans le film. Moi, ce que je voulais comprendre, c'est pourquoi on en arrive là. Et ce que je condamne, c'est la société patriarcale, toutes les injonctions, etc. Mais donc voilà, moi je pense que j'avais aussi cette bonne distance. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de la voir parce que j'avais aucun jugement de ma part envers elle.
Et justement, ce regard neutre que vous adoptez n'est pas celui qu'on peut porter sur la chirurgie esthétique ou encore moins sur la sursexualisation des femmes dans les espaces public et numérique, donc les réseaux sociaux. Il y a une influenceuse, Kéline, dans votre documentaire, qui a cette phrase et qui dit « Est-ce que la femme n'a pas le même corps que l'homme à cause des codes de société aussi ?» Moi, je voulais savoir, est-ce que la chirurgie esthétique peut ne pas rimer avec le patriarcat? Comment Kéline, qui sort de l'influence et peut-être parle a posteriori du regard qu'elle a eu sur ses opérations, elle peut s'émanciper de ces codes
Alors ça, c'est une question vraiment complexe parce que j'ai l'impression que, enfin voilà, que ce soit Kéline ou même Ninon, un autre personnage de mon film, qui elle dans une démarche ultra transhumanisme, enfin je veux dire, elle va très très loin, elle veut aller très loin dans la métamorphose et dans l'hypersexualisation, dans l'hyperféminité. J'ai l'impression que, enfin c'est une question complexe parce qu'en fait même si c'est pour s'affranchir, en fait, c'est pour détourner les codes du patriarcat. Enfin, c'est quand même le patriarcat qui provoque ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que la chirurgie esthétique est une réponse à toutes ces injonctions qui viennent du patriarcat. Peut-être que plus tard, ça va encore se développer vers autre chose. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est vraiment, vraiment lié à ça. Enfin, de ce que j'ai pu constater de mon expérience personnelle à travers la recherche de ce film, bien sûr.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut penser aujourd'hui en 2026 de l'adage « il faut souffrir pour être belle » enfin, vous parliez tout à l'heure, il y a quelques minutes, de mal-être. Et en même temps, il y a beaucoup de courage. Il y a 4 femmes pendant 50 minutes qui parlent face caméra, certaines où on suit des opérations. Comment c'est possible d'accepter la douleur physique, psychique, d'y retourner et de dire « je pense que c'est pas assez, il m'en faut plus ».
Bah déjà, merci de souligner leur courage, parce que c'est très important, parce qu'effectivement, elles ont été super fortes de se livrer là-dessus. Et oui, bah alors, souffrir pour être belle, moi je pense que c'est des grosses conneries. faut aller complètement contre ça, et ce film, je l'ai fait. Moi j'ai une petite sœur qui a 16 ans, et je l'ai un peu fait pour elle et ses copines, ce film, enfin, pour toute cette génération. Moi je pense que ma génération, malheureusement, sans vouloir être trop pessimiste, elle est un petit peu foutue par rapport à ça. Moi je sais que je continuerai de m'épiler, enfin bon bref, tout, plein de trucs comme ça qu'on impose aux femmes et qui sont vraiment pas agréables et qui coûtent de l'argent. Mais je pense que la génération de mes personnages, c'est compliqué. Je pense qu'effectivement elles vont continuer d'y retourner, qu'il y a un peu un truc de piège, et à la fois dans ce piège elles essayent de se libérer de quelque chose. Enfin bon, c'est hyper complexe, mais je pense que ça va se libérer, j'espère. En tout cas, ce film, je l'ai fait pour aider cette libération, enfin pour montrer que non, souffrir pour être belle, non, c'est pas top.
Moi j'avais envie de déconstruire un gros mot, enfin deux mots, la dissonance cognitive. Parce que, en fait, en voyant le docu, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est de me dire comment on peut être aussi loin de son corps, parce que ça parle beaucoup du détachement, et on customise son corps et on retouche ses photos et son corps comme si c'était une story. Comment c'est possible qu'on soit si proche de son image, mais si loin de son corps, en fait, en permanence. Tout le temps, elles sont sur les réseaux sociaux, il y en a une qui passe 8 heures par jour. Et elle ne peut pas se regarder devant un miroir, ou alors elle trouve tout de suite quelque chose qui ne va pas.
Oui, c'est très intéressant cette question. Bah, ça, malheureusement, je parlerai en premier lieu de dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est ça, c'est d'être obsédé par son corps et à la fois d'être complètement à côté de la plaque de son reflet. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout d'être ancré en soi. Enfin, voilà, c'est plutôt d'être obsédé par son reflet sans être dans son corps. Donc voilà, et ça, malheureusement, c'est un énorme fléau dans notre société aujourd'hui, qui est très tourné vers l'image, le capitalisme qui est très 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 tourné vers l'image, enfin, il y a un truc un peu d'addiction narcissique comme ça, et ouais, voilà.
Du coup, dans leur rapport au corps, est-ce que vous, de votre œil, vous avez ressenti que c'était possible d'avoir à la fois, ou alors que c'était en contradiction, du contrôle, de la fragilité, de l'assurance, de l'addiction? C'est quoi? C'est un mélange de tout? Ou c'est
ouais.
par ouais. phase?
Non, c'est un joyeux bordel. Enfin, je veux dire, c'est très chaotique. Je pense que ces filles aussi, enfin, mes personnages, en tout cas, elles sont quand même jeunes. Elles se cherchent à travers ça. Ninon, une de mes personnages, après avoir vu le film, elle a voulu arrêter ses injections parce qu'elle trouvait que de profil, ça faisait fake. Enfin, voilà, elle s'est découverte sous d'autres angles. Et je vois qu'elle continue de réfléchir à son corps et d'évoluer par rapport à ça. Et donc, mais oui, enfin, c'est ce que je dis aussi souvent en interview, quand des fois certains médias essayent de me faire dire qu'elles sont un peu zozo, tout ça. Je dis oui, bon, d'accord, il y a de la fragilité, mais il y a énormément de force aussi. Enfin, faut y aller, quoi, pour se faire opérer, pour récolter l'argent. Faut être super courageux. Enfin, donc voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et je pense que voilà, faut que je n'aise pas ces. Il y a des choses qui s'alignent de plus en plus, mais c'est moins clair que pour des gens, je sais pas, de 50, 60 ans qui vont faire des lifting, où là, il y a une trajectoire très nette qui est de vouloir juste rajeunir. C'est pas vouloir se métamorphoser complètement.
Et justement, qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez elle? Le fait de choisir 4 femmes qui ont des parcours de vie très différents, des envies différentes, si ce n'est les regrouper sous le même mot de la chirurgie esthétique. Est-ce que vous souhaitez montrer qu'il y a plusieurs femmes et plusieurs parcours? Il y en a une qui refuse de grandir, l'autre qui rêve d'avoir assez de sous pour remplir sa liste sur les notes de son téléphone. Est-ce qu'il y a une croisée, du coup, où la chirurgie reprend les mêmes soucis qu'on retrouve déjà partout dans la société, de classe sociale, de discrimination. Comment vous avez voulu le montrer ?
Oui, bah, c'était important pour moi d'avoir des profils différents pour sortir du cliché influenceuse bimbo Dubaï. Ninon, elle est aux Beaux-Arts de Paris, elle est au RSA et pourtant elle arrive à se payer une opération pour dessin à 5000 euros. Mathilde, elle est barmaid, voilà. Enfin, elles ont des univers complètement différents. Lina, elle est toute jeune, enfin, je veux dire, elle sort à peine de ses études. Et donc, c'était pour casser les clichés. Mais elles ont quand même tout en commun, cette espèce de rapport à l'enfance, en fait, effectivement, entre... Enfin, voilà, ne pas vouloir grandir chez elles, c'est comme ne pas vouloir vieillir. Enfin, je veux dire, il y a un peu cet amalgame très, très commun. Et l'autre point commun, c'est les réseaux sociaux. Mais voilà, sinon, je veux dire, c'est une pratique qui touche absolument tout le monde. Riche, pauvre, enfin voilà, peu importe le milieu social.
Éléonore Emilakis, réalisatrice du documentaire Je ne serai jamais parfaite, nous vous retrouvons juste après une proposition musicale que nous faisons, c'est Biba et Solo, le son de princesse. Nous retrouvons Mila Kiss, réalisatrice du documentaire Je ne serai jamais parfaite, interviewée par Éléonore.
Oui, et il y a quelques minutes, on parlait du fait d'avoir quatre femmes et quatre parcours très très différents. Ces femmes-là, elles pourraient être assimilées à des femmes immatures, qui voudraient pas grandir, qui voudraient pas se détacher de cette image. Et vous disiez il y a quelques minutes, ne pas grandir, pourrait dire ne pas vouloir vieillir. Est-ce qu'on parle d'une espèce d'agisme inversé où les femmes sont périmées même pas parce qu'elles sont plus âgées et que la vieillesse ne va pas de pair avec la beauté, mais comment c'est possible que des femmes qui n'ont pas encore leur trait d'adulte puissent se sentir déjà périmées en quelque sorte ? Est-ce que c'est nouveau ? Ça fait partie de la génération qui arrive sur les réseaux sociaux ?
Non, je pense que c'est depuis toujours. Je pense que juste les réseaux sociaux ont mis un petit coup d'accélérateur. Enfin, je veux dire, on retournait le couteau dans la plaie. Mais ça existe depuis toujours. Enfin, je veux dire, moi, je vois des pubs depuis que je suis enfant pour des crèmes anti-rides. Les mannequins qui font ces pubs ont genre 20 ans. Enfin, je veux dire, on grandit avec ça, que ce soit même les actrices dans les films. Enfin, je veux dire... Toutes les actrices de plus de 40 ans, voire même 35 ans, qui font la une du Elle, enfin à l'époque, voilà. Le titre qui les accompagnait, c'était comment je vieillis bien, comment vieillir, comment. Enfin, je veux dire, c'est tout de suite associé à ça, quoi. Donc, bien sûr, la société nous met ça dans la tête depuis qu'on est enfant. Et avec les réseaux sociaux, avec toute cette montée aussi de l'obsession des skincare, du maquillage, machin, enfin ça, ouais, c'est ça, ça a retourné le couteau dans la plaie.
Vous parlez des skincare, mais c'est vrai qu'on peut faire un gros parallèle. Maintenant, on voit de plus en plus les Sephora Kids, des enfants qui vraiment sortent du, enfin, ne sont même pas au collège et se préoccupent déjà d'avoir une skincare en je sais pas combien d'étapes. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont alarmants sur les réseaux sociaux. Il y a 17% des jeunes qui déclarent avoir vu des photos sur les réseaux qui provoquent des complexes. Et pourtant, presque 1/2 de ces mêmes jeunes, donc mineurs, trouvent une source d'inspiration. Est-ce que c'est pas un espèce de cercle vicieux où, en fait, on en revient à « il en faut toujours plus », mais en même temps, ça détruit mon image et en même temps, j'ai besoin d'en faire plus ? Comment les quatre femmes de votre documentaire arrivent à se sortir à la fin, à se dépatouiller avec elles-mêmes ? Quand vous éteignez la caméra, qu'est-ce qui reste pour elles ?
Bah ça leur appartient. Moi, il y a Ninon que j'ai vue récemment. Je sens que ça continue d'évoluer. Voilà, comme j'ai dit, quand elle s'est vue dans le documentaire. Lina, c'est justement celle qui ne veut pas en faire. À la fin, c'est un peu le message d'espoir du doc. Mais bon, après, ça je ne sais pas, ça leur appartient. Après, moi, le but, c'était que grâce à elle, un maximum de jeunes filles, très jeunes filles, se questionnent. Parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais elles sont tellement belles, mais nanana, enfin... » Et voilà, qu'ils se rendent compte, enfin, d'être face à quelqu'un qui se rend pas compte qu'elle est belle. C'est dire, mais en fait, c'est peut-être mon cas aussi. Enfin, voilà, c'était d'être dans un rapport honnête, en tout cas.
Et justement, les chirurgiens que vous avez vus et les opérations que vous avez filmées, quelle est la distance, du coup ? J'imagine que vous, on peut pas vous accuser de faire de la pub, vous filmez pour montrer aussi les choses telles quelles. Mais quelle responsabilité il y a, du coup, pour ces chirurgiens qui opèrent des personnes peut-être de plus en plus jeunes ? Dans le documentaire, à un moment, on voit une de ces jeunes femmes qui tient comme un menu avec les opérations et vraiment qui dit « entrée, plat, dessert ». C'est quoi la responsabilité, une fois qu'on est majeur, quand on pousse les portes d'un institut ? Est-ce qu'on peut dire non ?
Oui, il y a plein de chirurgiens qui... Enfin non, il n'y a pas plein de chirurgiens. Le chirurgien que je connais, il dit non et il conseille régulièrement de voir des psys à certaines de ses patientes. Enfin, il les envoie direct chez des psys. Sans mépris aucun, hein, mais vraiment parce que voilà, il décèle que le problème il est dans la tête, il n'est pas physique. Après, c'est là où c'est compliqué, c'est que quand est-ce qu'on sait vraiment que le problème est physique ou pas ? Enfin, je veux dire, c'est tellement complexe, en fait, mais la responsabilité, en tout cas, elle est énorme. Enfin, je veux dire, il y a une immense majorité de médecins qui s'en fichent complètement et qui opèrent des filles qui n'en ont pas besoin du tout ou qui sont beaucoup trop jeunes.
Et peut-être deux questions avant de vous laisser. Il y a à peu près 3 ans, Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie, avait annoncé l'interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique pour les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et on voit dans vos documentaires, dans votre documentaire, pardon, que ça revient et que finalement, on prend rendez-vous presque sur Instagram pour des opérations comme ça plutôt que sur Doctolib. Est-ce qu'on peut freiner ça aussi tout seul ou on nourrit notre propre algorithme ? Enfin, comment ça se passe pour ces quatre femmes ?
Oui, bah encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Même moi, j'ai des pubs partout parce que voilà, j'ai mis un pied dans l'œil pour les recherches de mon film. Et effectivement, 95%, je dirais, des médecins sont contactés par DM sur Instagram pour la chirurgie esthétique.
Vous aussi, vous avez des pubs maintenant ?
Ah oui, bien sûr, moi j'ai énormément de pubs, beaucoup de fake injectors aussi, des réductions, et puis il y a tout ce côté un peu capitaliste où en fait ils ont bien compris, enfin, c'est-à-dire que la frontière maintenant entre cosmétique et chirurgie esthétique ou médecine esthétique, elle est très mince en fait. Et ça voilà, ils font exprès, mais tout comme par exemple les puffs, enfin sur un autre sujet, sont vendus comme si c'était des bonbons. Enfin voilà, et c'est pour ça, enfin je veux dire, les Sephora Kids, c'est aussi un dérivé de tout ça. Donc je veux dire, la chirurgie esthétique est à la base de la médecine vraiment, et quelque chose de lourd et d'important et d'impactant, et vendu avec un packaging de crème quoi.
Justement, si on en revient à comment on montre ces images et dans la réalisation, tout est filmé au caméscope. C'est particulier, ça donne un grain et un peu une touche nostalgique, le caméscope qu'on avait dans les années 2000. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir un montage très zoomé et avec autant de détails un peu Y2K?
Oui, alors moi j'ai toujours tourné au caméscope, je ne sais pas me servir d'autre chose, donc c'est vraiment... La continuité de mon regard, il y a que ça que je maîtrise comme outil, donc c'était naturel. Mais en plus, c'était pertinent pour ce film. C'était pas juste de l'esthétique pour de l'esthétique. Je voulais que pour des filles qui sont, enfin, c'est des filles qui sont obsédées par leurs reflets, et moi, je voulais qu'elles échappent à leurs reflets à travers ma caméra. Du coup, en zoomant et en allant chercher de la texture, de la matière, et du coup, ça crée vraiment une image opposée avec le côté très lisse qu'on a sur Insta, avec les filtres, etc. Et je voulais que, voilà, parce que c'est un film aussi sur tout ce côté, enfin, surtout le métaverse un peu lissé, parfait. Et du coup, je voulais un outil qui soit très texturé, avec beaucoup de mouvement, beaucoup de vie finalement. Pas quelque chose qui fige.
Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être qu'on retienne de ce documentaire? Si on peut souhaiter quelque chose.
Non, j'aimerais juste qu'on laisse vraiment les filles tranquilles, et les garçons aussi bien sûr, mais qu'on laisse tranquille le physique des gens. Et voilà, qu'on apprenne vraiment à se libérer de ça, c'est très important.
Merci Milakis d'être venue sur nos ondes. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que votre documentaire « Je ne serai jamais parfaite » est disponible sur YouTube, Canal+ et France TV.
Tout à fait, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, place au Flash Info avec Fabien.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour, et on commence tout de suite avec la France. Selon un projet de décret transmis pour avis au Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, la durée des arrêts de travail sera limitée dès le 1er septembre 2026 à 31 jours pour une première prescription et 62 jours en cas de renouvellement. Le gouvernement semble de toute façon bien déterminé à réduire la facture des arrêts de travail qui ont coûté 12 milliards d'euros d'indemnités journalières en 2025. France toujours. La porte-parole du gouvernement a assuré mercredi 15 avril qu'il n'était pas question de revenir sur les certificats d'économie d'énergie, cette contribution payée notamment par les distributeurs. Mardi soir, Michel-Édouard Leclerc avait assuré sur France 2 que la suspension de ces certificats d'économie d'énergie permettrait de faire baisser de 15 centimes le prix des carburants et ainsi soutenir les consommateurs dans leur pouvoir d'achat. États-Unis. Donald Trump a supprimé ce lundi 13 avril une image le représentant tel Jésus sur son réseau Truth Social face à l'indignation de la droite religieuse américaine, assurant qu'il s'agissait en fait de lui en médecin. L'image montre Donald Trump drapé d'une toge rouge et blanche avec un halo de lumière dans les mains et posant une pomme sur le front d'un homme alité, entouré de personnes qui le regardent. Moyen-Orient, Israël. L'ambassadeur israélien aux États-Unis a affirmé qu'Israël veut écarter la France des négociations de paix avec le Liban. Une déclaration qui survient après que 17 pays, dont la France, ont appelé Israël et le Liban à saisir l'opportunité des pourparlers de paix. L'ambassadeur israélien aux États-Unis a blâmé le rôle de la France au Liban, affirmant que Paris n'avait rien à faire dans les négociations entre Israël et le Liban. Et enfin, pour terminer, sport, Ligue des Champions, bousculé à Anfield, le PSG bat à nouveau Liverpool et se qualifie pour les demi-finales avec un score de 2-0. Largement dominé en seconde période, mardi, le club parisien a puni le manque d'efficacité des Reds grâce à Ousmane Dembélé pour mettre fin à tout suspense.
Merci Fabien. Vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9. Offrons-nous une pause musicale le temps de quelques notes avec Green Tea Peng, Human.
Searching for balance, praying for clarity. Marsh, strip me naked. Take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Marsh, strip me naked. Take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. Our clothes, I like to hide, so no one knows what I'm made from. Deep in my soul, taken from home, so far we stroll. Deep in these roads, think we control this, we don't, but we could. I wish we would throw away these phones, get a bit more holy, see the world more slowly, take tests more roses. Searching for balance, praying for clarity, Mars strip me naked. Take this identity, tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Marsh, strip me naked. Take this identity, tell me it's unity. In Lakesh, I Lakin, I am you, you are me. See, all I know is that I know nothing at all is is so mystical, magical, and no, we don't know our potential. How could we when they lie? They cast spells and they try dropping bombs from the skies like we are not stars. Inside me, there's a war.
Sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Anna vient de nous rejoindre en studio pour évoquer les free parties et une nouvelle loi visant à restreindre ces événements. Bonsoir Anna.
Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vous pose une question simple. Peut-on encore danser librement? Peut-on encore simplement laisser un corps suivre le rythme, une nuit s'étirer au son des basses, des inconnus devenir foule le temps de quelques heures? Peut-on encore faire de la musique sans demander la permission? Jeudi 9 avril, l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi visant à durcir fortement la répression des free-parties. Un texte défendu notamment par la députée Horizon, Laetitia Saint-Paul. Le vote est passé, net, en première lecture avec 78 voix contre 67. Et désormais, le texte poursuit son chemin vers le Sénat. Derrière celui-ci, un objectif clair, rétablir l'ordre. Alors de quoi parle-t-on exactement? Les free parties, littéralement fêtes libres, reposent sur un principe simple. L'accès gratuit ou à donation libre, souvent dans des lieux isolés ou abandonnés, parfois sur plusieurs jours. à la différence des rave parties, qui sont aujourd'hui davantage déclarées et encadrées, parfois même avec billetterie. Les free parties, elles, se définissent justement par leur illégalité. Et concrètement, qu'est-ce qui change avec cette loi ? Eh bien, la loi prévoit de durcir fortement les sanctions. Organiser une free party pourrait coûter jusqu'à 6 mois de prison et 30 000 euros d'amende. Et attention, organiser devient une notion très large. Transporter du matériel, installer une sono ou même partager des infos pratiques. Tout ça pourrait vous faire basculer du statut de fêtard à celui de délinquant. Même les participants ne sont pas épargnés. En cas de récidive, l'amende peut grimper jusqu'à 3 000 euros. Le texte va encore plus loin. Il abaisse le seuil de déclaration obligatoire de 500 à 250 participants. Or, dans les faits, ces événements rassemblent souvent autour de 300 personnes. Autrement dit, une grande partie de ces fêtes basculerait automatiquement dans un cadre administratif et potentiellement répressif. Alors, du côté des défenseurs du texte, on parle de nuisances, de drogue, de sécurité. Et oui, ces problèmes, ils existent, personne ne les nie. Et puis comme si on n'avait pas ce même genre de problème à l'Assemblée. Mais une question se pose pour les free parties. Est-ce qu'on régule ou est-ce qu'on écrase ? Parce que les free parties, ce n'est pas juste du bruit dans un champ. C'est aussi une culture, une contre-culture même, née à la fin des années 80. C'est des événements souvent autogérés, gratuits, en dehors des circuits commerciaux, un espace où on danse sans payer 20 balles l'entrée ou 18 euros son gin tonic avec trop de glaçons. Certains chercheurs le rappellent, ces rassemblements sont aussi une réponse à une forme d'exclusion sociale et économique. Et c'est peut-être là que ça coince. Car à force de vouloir encadrer, contrôler, interdire, on finit par criminaliser des pratiques qui sont avant tout des formes d'expression. Le gouvernement annonce déjà vouloir aller plus loin avec le projet de loi Riposte, attendu au Sénat en mai, qui pourrait prévoir jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour les organisateurs. On ne parle plus seulement de régulation, on parle de dissuasion massive. En 2025, déjà, des milliers de personnes manifestaient à Paris contre cette répression croissante. Et aujourd'hui, la question reste la même. Est-ce qu'on lutte contre un problème ou contre une jeunesse qui dérange ? Parce qu'au fond, ce que dit cette loi, c'est peut-être ça. La fête, oui, mais seulement si elle est déclarée, encadrée, sécurisée et surtout autorisée. Alors oui, les arguments de sécurité existent. Il y a des risques, des dérives, des situations parfois difficiles à gérer, mais faut-il répondre à la fête par le pénal, au collectif par la sanction, à la musique par le silence ? Les free parties, c'est aussi une autre manière d'habiter la nuit. Un espace fragile, temporaire, imparfait, mais vivant. Un endroit où l'on danse sans ticket, sans sélection, sans vitrine. Parce qu'on peut bien fixer des seuils, des amendes, des cadres, mais une fête, une vraie, ça ne rentre jamais complètement dans une case. Alors comme le dirait Dalida...
Merci beaucoup Anna. La matinale de 19h continue tout de suite avec le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Vendredi à la station Gare des Mines, c'est pas une free party mais il y a une soirée du collectif D-Society. Pour nous en dire plus, Eloane accueille Manon, cofondatrice et programmatrice des événements D-Society. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Hugo, bonsoir Radio Campus. Déjà ça me fait super plaisir que Anna vienne de nous parler des free parties parce que ça donne un peu la tonalité de notre conversation avec Manon ce soir. Donc déjà je suis contente de vous retrouver non pas pour une chronique ciné mais pour l'interview du coup de la cofondatrice de l'organisation D-Society de programmation d'événements underground. Bonsoir Manon.
Bonsoir, enchantée, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Ce soir, on discute toutes les deux à l'occasion du coup de ta prochaine soirée programmée ce vendredi, le 17 avril, à la station Gare des Mines. Cet event, tu me coupes si je me trompe, c'est 3 lives musicaux de la scène industrielle expérimentale et une performance poétique. Ce sont des artistes du coup hyper éclectiques qui vont se réunir. On compte par exemple Genesis Phone et Incendie dans le style techno EBM, mais aussi Trattenwald, Age of Eight et La Veuve à l'occasion du coup de la sortie de son livre de poésie noire, Camarades de la Zone Noire. Du coup, avec cette programmation, tu parviens à faire venir des artistes un peu de toute l'Europe. Comment est-ce que D-Society en est venu à organiser de tels line-up ? Comment est-ce que vous faites pour trouver vos artistes ou pour qu'ils vous trouvent, vous ?
Alors, il y a beaucoup de choses dans ta première question prise de parole.
C'est souvent des très longues questions.
En tout cas, de ce que j'ai compris, on va déjà parler un peu de la programmation des artistes. Pour un peu rebondir sur comment tu les as présentés, tout d'abord, peut-être dire un mot du lieu. En effet, notre collectif D-Society, il existe depuis 2023 et ça va être notre première date à la station Gare des Mines. Et c'est une grande joie et fierté. Honnêtement, j'ai été toquée à leur porte plusieurs fois en leur proposant des programmations et plusieurs fois elles ont été refusées. Peut-être qu'eux-mêmes ils avaient la conscience que en fait jusque-là on avait investi soit des plus petits lieux ou sinon on avait fait le sample à un tiers-lieu vers Bagnolet avec un grand jardin en été. Et là en soi, il y avait une assez grande capacité et on avait bien réussi sur ces dates-là.
Trop bien.
C'était peut-être des dates avec un peu plus de musique club, un peu plus proche de ce qui est très écouté. Et donc après, on a de plus en plus pris plaisir à programmer des artistes expérimentaux ou des scènes noise ou de genre non identifié par le grand public. Et en fait, c'était un grand plaisir. C'était vraiment une envie, en tout cas, de programmer ces artistes-là. Et ça nous a orienté aussi vers d'autres types de lieux, peut-être un peu plus petits, mais toujours de grande qualité, puisque c'est vraiment aussi une des choses auxquelles on prend soin. Et la station, du coup, moi personnellement, c'est un des premiers lieux quand je suis arrivée à Paris où j'ai été faire la fête, où j'ai été découvrir de la musique. C'est très important le fait de connaître les lieux où tu vas découvrir de la musique et où justement ma culture un peu musicale et mes expériences de fêtes, de concerts à Paris, la station, ça en faisait partie quand je suis arrivée, je crois, en 2017. Mmh. Et donc, j'étais toujours à leur porte. Peut-être que les premières fois, ils m'ont dit non pour des programmations parce qu'ils avaient conscience qu'on allait peut-être, se rater tout simplement et que nos programmations, nos propositions, elles étaient trop confidentielles pour pouvoir toucher une salle un peu plus grande. Et là, grande surprise. Et après, c'était une prog un peu pensée pour eux. Mais ils m'ont dit oui. Et on a hâte pour ce lieu que je continue d'apprécier en tant que public et dont je suis proche de plein de manières et qui d'ailleurs j'ai commencé à rebondir sur la station parce que ce soir même ils ont publié un petit post important sur les réseaux sociaux qui parle en fait de leur future fermeture pour 3 ans pour travaux, ce sera en novembre et donc ils viennent de lancer un appel à soutien parce que en fait leur site va être fermé pour 3 ans de travaux et en fait ce qui veut dire que la mairie de Paris veut les soutenir pour qu'après les travaux ça réouvre mais en fait là c'est toute une super équipe de personnes impliquées dans la musique qui vont se retrouver au chômage technique et nous programmateurs, programmatrices, public, on perd une salle hyper importante donc cet appel là à soutien il est là pour aussi les aider à trouver un lieu et des ressources.
C'est super important que t'en parles. Et du coup, juste
pour...
C'est
pas parler des artistes.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, mais t'inquiète pas, je suis là pour te rappeler un peu. Concernant les artistes, oui. Donc on en parlait tout à l'heure, t'as des artistes du coup qui viennent d'Irlande, de Berlin, oui. Donc c'est, tu couvres quand même une scène assez européenne. Comment est-ce que t'as fait un peu pour créer ce lien avec eux et pour qu'eux, ils aient connaissance aussi de Dissociety et de l'impact qu'ils ont du coup sur Paris?
C'est vrai que cette date-là, on a quand même 2 artistes qui viennent de l'international, ce qui est franchement, ce qu'on appelle une belle programmation, enfin une programmation ambitieuse, parce que faire venir en effet des artistes de l'international qui jouent pas beaucoup à Paris, enfin moi en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles je fais aussi de la programmation. Genesis Phone, c'est une artiste, donc c'est celle qui vient de Dublin en Irlande, que je suis depuis pas mal de temps et que, enfin je sais pas, moi j'attendais en tant que public quand est-ce qu'elle va jouer, j'attendais sa date.
Et
quoi.
C'est toi qui l'as ramenée.
Et du coup, c'est moi qui l'ai ramené. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je fais des événements. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie de voir un artiste. Je l'invite. Bon, malheureusement, ça marche pas avec tout le monde quand même. Là, on reste quand même sur des artistes de l'équivalent de nos scènes, mais dans d'autres villes d'Europe. Et en effet, c'est un petit pari. Après, il y a Incendie qui vient de Berlin. C'est un Français basé à Berlin depuis très longtemps. Sinon, il y a Andres qui performera sous le nom La Veuve, qui est installé à Rouen depuis quelques temps. Mais avant, il était à Paris. Il a été à Paris pendant très longtemps. Et Edge of Fate et Trattenwald, en effet, on a les Parisiens. Les Parisiens, ça aussi, en fait, c'est à la fois très pratique de faire jouer des personnes de Paris, mais c'est aussi un engagement de faire tourner à la fois, de faire rencontrer les scènes, d'inviter des artistes de la scène, de notre scène locale, et des artistes de l'extérieur. Enfin, c'est vraiment créer aussi cette espèce de rencontre. Et en effet, quand un artiste comme Genesis Phone, on tape à sa porte, enfin son compte Insta ou peu importe, je me mets à leur place. Généralement, ils vont creuser un peu. Souvent, justement, ils ont quand même des artistes qui nous connaissent parce que Dissociety, en fait, c'est une branche d'un. Enfin, en fait, je suis proche de plusieurs collectifs et les artistes voient que je suis proche d'un autre collectif qui a un peu plus de reconnaissance, qui existe depuis plus longtemps aussi.
Donc vous rayonnez un peu tous ensemble.
Qui s'appelle To The Bone et généralement ils voient les liens ou d'autres collectifs encore, exactement. On est un réseau qui rayonne où la réputation en tout cas elle circule entre les artistes qu'on a déjà fait jouer. Je sais qu'il y a des artistes qui nous ont déjà confié j'ai vu que vous aviez fait jouer un tel, je lui ai demandé ils sont comment, ça se passe comment avec eux, tout ça. Et apparemment les retours sont bons.
Trop chouette.
Ça fait plaisir. Et comment une de tes questions. Alors je voulais rebondir aussi sur un que tu avais présenté la programmation comme éclectique, elle l'est sans trop l'être. Honnêtement, j'ai fait pire, pire dans le sens éclectique. Ouais. Et, c'est, et même dans notre public qui nous suit énormément, par exemple, il y a des personnes, on les retrouve vraiment toutes les dates, ça fait plaisir. Et la plupart du temps, ils nous disent, mais je connaissais aucun des artistes ou un seul. Et du coup, déjà, on a des personnes, un public qui nous suit pas forcément. Parce qu'ils connaissent les artistes et ils sont, on a fait des dates qui sont vraiment plus variées en termes de genres représentés, alors que là, je trouve quand même que les quatre projets partagent des liens sur les genres musicaux, même si ça ne s'exprime pas totalement de la même manière, des liens dans les scènes, dans les esthétiques, que je trouve assez évident. Et tous et toutes, en effet, il y a des influences de la scène industrielle et presque tous et toutes un côté dansant aussi. Je dis presque parce qu'il y a la performance plus poétique de Andrescu Mansou, la veuve, qui ne sera pas forcément dansante, mais qui aura aussi son énergie propre.
Et du coup, dans la suite de cette discussion, donc on en a parlé un peu déjà, mais Dissociety, c'est quand même une certaine niche. Si on prend le prochain event de vendredi, donc on va retrouver ce mélange dont tu as parlé d'énergie rythmique et de musique expérimentale, mais de façon globale, vous arborez quand même un style qui vous est particulier, qui est plutôt sombre et qui prend toute la place qu'il mérite sans s'excuser. Comment vous avez fait pour aussi vous construire et vous frayer votre propre chemin pour attirer aussi vos partisans?
Bonne et large question encore une fois. De quel côté je vais la prendre du coup? Le terme de niche, déjà, c'est un terme où moi-même, justement, votre invitation sur Radio Campus Paris... Elle me fait très plaisir parce que justement, en fait, moi j'utilise beaucoup le mot de communauté où c'est vrai qu'on est des communautés et des communautés pas mal en réseau quand même dans les scènes indépendantes, alternatives, expérimentales, mais et niche. Et alors à la fois je rejette pas du tout et j'ai conscience qu'on en est une. Et le mot communauté, ça sert à dire aussi une forme de niche, mais dans le sens où on est des personnes, je pense, qui à la base faisaient tous des choses différentes entre les passionnés de musique qui en font pas mais qui sont devenus programmateurs, programmatrices ou autre chose, et ceux qui font de la musique. Et souvent c'était des personnes qui faisaient un peu leurs choses, qui expérimentaient dans leur coin et qui ont fini par comme moi quand je suis arrivée à Paris, c'est vrai, par exemple j'ai tenté un lieu, deux lieux, trois lieux, je me sentais pas bien ici, je me sentais bien là. Et en fait c'est petit à petit comme ça que ces niches là elles se sont créées. C'est où est-ce que tu te sens bien, sans forcément, d'ailleurs d'où le côté qu'on peut faire des programmes assez éclectique quand même, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'être des clones, des personnes qui partagent une identité totalement similaire, mais par contre il y a vraiment des états d'esprit très particuliers que tu peux résumer à certains mots comme l'expérimentation, l'indépendance, ça c'est des choses qui me tiennent à cœur il est un peu intense, l'intensité, voilà, j'allais dire viscéralité mais intensité, ça marche très bien aussi. Et donc comme je disais, votre invitation elle m'a fait très plaisir parce que moi je tiens à cette communauté-là, parce que moi-même, j'ai trouvé personnellement, artistiquement, créativement, plein de choses, un épanouissement, une place, en rencontrant des personnes qui évoluent dans ces scènes-là. Mais par contre, je trouve que j'aime élargir notre communauté et pas justement rester une niche fermée au monde.
Créer des ponts et parler à plus de gens.
Oui.
Et du coup, est-ce que tu considères que la programmation de toutes ces différentes formes d'art que Dissociety met en avant constituent en soi un acte de résistance politique? Parce que de nos jours, sous la France de Macron et sous généralement la montée de la répression, du conformisme, de la perte de nos libertés, est-ce que vous rencontrez des obstacles extérieurs à l'épanouissement de l'organisation? Est-ce qu'aussi il y a des obstacles intérieurs dans votre façon de vous refuser certaines choses pour avoir accès à plus d'opportunités? Comment est-ce que tu envisages un peu tout ça?
Oui, en effet, c'est Il y a plein de choses vraies dans ce que tu as dit. À la fois, on s'énerve contre les obstacles qu'on rencontre et à la fois, on se met des bâtons dans les roues. Parce qu'en effet, bah, encore une fois, on est sur ces scènes. Un de nos mots-clés, c'est DNI or die, de do it yourself ou crève. Toi-même crève. Ouais. Et en fait, à la fois, c'est un constat. En fait, j'ai déjà essayé, il y a longtemps, de demander des financements, d'avoir du mécénat, du je sais pas quoi, j'ai pas réussi. Mm-hmm. Et en fait, mais moi-même, je me disais, mais attends, mais avec qui tu voudrais être soutenu, par exemple, pour nous aider à exister. Et en fait, nous-mêmes, finalement, c'est pas qu'un constat, on n'est pas soutenu, c'est aussi une revendication dans le sens où l'indépendance, sans l'indépendance, c'est un peu le serpent qui se mord la queue dans ces scènes alternatives. Mm-hmm. C'est des difficultés, mais c'est aussi, on perdrait une part de notre identité si, et de nos façons de faire si on n'était pas comme ça. Et est-ce que je considère que l'organisation de nos soirées, nos événements, nos programmations sont une forme d'engagement, de résistance? Et ben, je me pose particulièrement en ce moment la question. Honnêtement, il y a des jours où je me dis, mais je devrais pas être, c'est pas ça que je devrais faire en ce moment. Franchement, je fais un peu une hiérarchie quand même des engagements, des causes, de là où faut être politiquement en ce moment dans le contexte dans lequel on est. J'ai conscience que faire de la programmation musicale, ça a un impact qui reste limité sur la situation politique, des prises de conscience, etc. Mais rien que de former des communautés et de pas laisser les gens s'isoler tout seuls ou en effet être happés par la culture populaire, commercial, c'est déjà très important. Et généralement, là, si on regarde un peu les quatre artistes qui sont programmés, les quatre projets, les cinq artistes qui sont programmés à notre soirée, on se rend compte que c'est des personnes qui toutes ont eu des engagements quelque part, que ce soit par des concerts en soutien à une cause importante, ou des messages dans leurs textes, ce genre de choses. Et il y a un côté engagé, même si il faut pas le survendre.
Merci beaucoup. On vous retrouve donc c'est vendredi, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est vendredi soir.
À la station Gare des Mines, on peut réserver via Shotgun, j'imagine, ou votre page?
C'est via la billetterie Dice.
Et on va écouter un artiste qui participe à la soirée, c'est Genesis Faun avec le titre Vile.
I'm sorry.
Genesis Found, le titre Vile sur Radio Campus Paris sur le 93.9.
La matinale de 19h.
Nancy étant absente, c'est moi qui me charge de lire sa chronique. Alors, le sujet, c'est l'histoire de Poulane Devy. Alors aujourd'hui, depuis la Belgique, Nancy nous raconte l'histoire de Poulane Devy, l'une des figures imposantes du mouvement féministe en Inde. Tout commence dans la vallée de la Chambal, une région du centre de l'Inde où naît Poulane Devy en 1963 chez les Malas, une caste de pêcheurs pauvres. Son enfance est un catalogue d'horreurs. Mariée de force à 11 ans à un homme violent de 33 ans, ce même homme va abuser d'elle pendant des mois avant que ses parents ne la récupèrent. Mais à son retour, la jeune fille devient le symbole d'une paria, rejetée par son propre village à cause de l'annulation de son mariage. Mais Poulane n'est pas du genre à baisser les yeux. Adolescente, elle est enlevée par un gang des Dacoits, des bandes armées organisées de brigands, souvent des paysans dépossédés de leurs terres, et cette fois décide de ne plus être la proie. En quelques mois, elle renverse le destin, épouse le chef du gang, troque ses vêtements de paysanne pour l'uniforme de combat et apprend à dompter le fusil. De captive, elle devient combattante, s'imposant par la force et le charisme à la tête de sa propre troupe. Néanmoins, tout prend une autre tournure. En 1980, Poulane est capturée par une bande rivale de la caste des Takur, de puissants propriétaires terriens de la haute caste. Son époux est assassiné et la jeune femme est séquestrée au village de Bemaï. Et de nouveau violée, collectivement cette fois, et cela pendant près de 3 semaines, au bout desquelles elle réussit à s'échapper. Elle s'enfuit, mais ne cherche pas la protection de la police, elle cherche la vengeance. Le 14 février 1981, elle retourne au village de Bemaï avec à ses côtés un nouveau gang dont elle avait eu la force de créer, avec toujours le même seul et unique but, se venger. Poulane aligne 22 hommes et les fait exécuter en représailles des violences qu'elle a subies. Cet acte d'une violence inouïe fait d'elle l'ennemi public numéro 1, mais aussi l'icône absolue des opprimés de l'Inde. Un acte qui lui vaudra d'ailleurs le surnom de Robin des Bois dans la presse, une légende est alors née. Pour de nombreuses personnes, principalement des basses castes, elle est l'incarnation de la déesse Durga, figure féminine, guerrière, combattant le mal dans la mythologie hindoue, élément central de sa mythification en Inde. Pendant 2 ans, elle échappe aux policiers. Cependant, en 1983, épuisée et malade, elle décide de se rendre devant des milliers de personnes. Elle passe 11 ans de sa vie en prison, sans procès. À sa sortie en 1994, la surprise est totale. Le monde s'attend à une femme brisée, mais y découvre au final une force politique. En 1996, Poulane est élue députée. Elle troque son fusil contre le sari rouge des activistes et porte à la tribune du Parlement la voix des femmes, des intouchables et des opprimés. Le destin de Poulane Devy s'arrête brutalement le 25 juillet 2001. Elle est assassinée devant son domicile à New Delhi par des hommes prétendant venger le massacre de Bemaï. Poulane Devy n'était pas un ange, loin de là. Mais dans une société indienne figée par le système des castes et le patriarcat, elle a prouvé qu'une femme n'est rien, pouvait forcer le destin jusqu'à devenir le symbole d'une révolte nécessaire. On l'appelait la reine des bandits, mais elle restera surtout celle qui a refusé de subir. Celle qui a refusé de subir une chronique de Nancy. C'est la fin de la matinale. On se retrouve demain à 19h. Mais avant ça, merci à Eleonore, à son invité Milakis, à Fabien au Flash Info. Merci à Nancy dont je viens de lire la chronique. Et à Anna, Eloane et à son invité, à Manon pour le Zoom. Rendez-vous demain sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.